Bonsoir, 541 communes sur les 35 000 et quelques que compte la France, pas grand-chose me direz-vous. Pourtant, pour ces 541 communes qui n'ont aucun accès Internet, il y a urgence. Parce qu'à la fin des années 90, début des années 2000, Internet c'était pour se distraire, pour un loisir. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un besoin quasi quotidien pour les formalités les plus basiques, la banque, les impôts, les inscriptions, en tout genre. Alors 20 milliards d'euros sont mis sur la table pour le plan France très haut débit. Mais pour qui, avec qui, pourquoi, comment? Martine Lombard a pris place en studio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'ARCEP, comprenez l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ça fait aussi partie de vos attributions. Avec nous ce soir également Michel Combeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la Fédération française des télécoms qui regroupe les opérateurs de télécommunications en France. Je crois qu'il y en a une petite quinzaine. Fédération présidée depuis peu par quelqu'un de Bouygues Télécom et auparavant par l'un des patrons d'Orange. Et puis nous recevons également Sébastien Dufromentel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au téléphone. En Bretagne, on capte bien, apparemment, tout va bien. Alors, vous représentez une autre fédération, celle des fournisseurs d'accès à Internet associatif. C'est une sorte de coopérative pour un accès Internet neutre, transparent et militant. On va pouvoir découvrir votre fonctionnement jusqu'à 20h. Le téléphone sonne. Alors, on attend vos témoignages et vos questions. Des questions qui sont déjà très nombreuses. Si vous êtes en zone blanche, trouvez vite une ligne fixe pour nous appeler. 01 45 24 7000. La fracture numérique, la vie avec et quelles solutions pour en venir à bout. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Avant d'aller au standard, un premier tour de table vraiment très rapide. Quel est l'objectif sérieux, on va dire atteignable, que vous vous êtes fixé les uns les autres pour réduire, voire totalement réparer cette fracture numérique? L'État dit un bon haut débit pour tous en 2020. Est-ce que c'est réaliste, Martine Lombard?
Oui, ça me paraît réaliste. En tout cas, l'ARCEP fera tout pour atteindre cet objectif, qui est un objectif que s'est fixé le gouvernement, un engagement qu'il a pris vis-à-vis des collectivités territoriales. Et nous, nous mettrons notre expertise au service de cet engagement, car oui, il faut réaliser cela.
Michel Combeau.
Oui, les opérateurs vont mettre leurs investissements au service de cet objectif du gouvernement que nous partageons pleinement. Les opérateurs, c'est près de 10 milliards d'euros d'investissement chaque année qui vont effectivement permettre de développer le bon haut débit et le très haut débit vers l'ensemble des Français.
Sébastien Dufromentel, en direct de Brest, ou pas très loin de Brest en tout cas. Est-ce que ça vous semble honnête comme objectif, le bon haut débit pour tous d'ici à un an et demi?
Eh bien, en l'état actuel des choses, ça me paraît difficile, mais après, il faut voir les moyens qui sont mis. Alors, moi, je représente une fédération de fournisseurs d'accès Internet associatif, c'est-à-dire qu'on est de toutes petites structures. Donc pour ce qui concerne le déploiement de la fibre, nous on n'a pas les moyens de participer malheureusement, mais on travaille activement à mettre en place des technologies de transition.
Et on va voir avec vous d'ici à 20h, hein, je vous le promets, comment vous fonctionnez, quelle est l'alternative justement que vous proposez. J'aimerais à 19h21 qu'on ouvre cette émission avec un appel depuis un département mal loti, où il doit y avoir des zones blanches, le Lot. Ça ne vous surprendra pas, on verra tout à l'heure avec vous un petit panorama de ces zones blanches. Le Lot où nous attend Cora. Bonsoir Cora.
Oui, bonsoir France Inter et merci de prendre mon appel.
Ben, on est là pour ça, votre témoignage nous intéresse et je pense qu'il est assez représentatif d'un certain nombre d'auditeurs de ce joli département du Lot.
Voilà. Alors excusez-moi, mais si jamais on est coupé, c'est parce que sur mon téléphone je n'ai qu'une barre là, que je tiens orientée dans un endroit à vraiment un endroit précis, parce que sinon il va s'éteindre.
Pour l'instant, on capte très très
d'accord
bien ce que vous nous dites.
Ben oui, moi je dis oui, Internet, bien sûr, on nous oblige maintenant à avoir Internet pour faire les déclarations d'impôts, pour la banque, pour tout ça. Je vois, j'ai ma voisine qui a Internet, qui a fait le choix de l'installer. Moi, j'ai fait le choix de ne pas l'installer, justement, pour pas, comme je dis, enrichir les grosses sociétés de ça, la Bouygues, Orange et tout ça. Parce que si vous avez Internet dans la semaine, une fois par semaine, et que vous payez tous les mois 40 euros, je sais pas, moi, il y a un petit problème quelque part, quoi.
Mais alors ça, c'est un autre problème. C'est vous ne voulez pas aller dans le système
alors,
Internet.
Alors du coup, non, moi, c'est pas une question que je veux pas être dans le système, puisque de toute façon,
vous ne pouvez pas.
On est tous obligés de le faire. Alors du coup, nous avons des médiathèques où nous pouvons avoir accès à Internet deux fois par semaine, hein, Et à ce moment-là, nous allons dans les médiathèques, donc il faut se déplacer, faire 5-6 kilomètres, ça dépend dans quel lieu vous vous trouvez pour avoir accès à la médiathèque. Et là, vous pouvez avoir accès à Internet, mais de chez moi, personnellement, même le téléphone, c'est une galère. Alors du coup, j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas l'installer. Ils disent qu'ils vont mettre la fibre optique dans tous les villages, mais est-ce que ça va vraiment marcher ?
Ben voilà votre question et je vous incite à écouter la réponse, chère Cora, de nos invités. Est-ce que ça va vraiment marcher même dans les petits villages de départements ruraux comme le Lot ? La fibre dans quelques mois ou quelques années, Martine Lombard.
Là, nous parlons de fibre, donc nous parlons de connectivité fixe, alors que Cora disait qu'elle n'avait qu'une barre sur son téléphone et là donc elle parlait de téléphonie mobile. Donc en fait, la notion de zone blanche, elle est très très variable avec le temps. Au départ, on parlait de zone blanche pour ne parler que de téléphonie mobile. C'était les zones où on n'arrivait pas à téléphoner avec son téléphone mobile. Et ça, actuellement, c'est plus que 1% du territoire. Mais aujourd'hui, on parle de zone blanche d'une façon beaucoup plus exigeante, en fait. Zone blanche, dès qu'on n'arrive pas à accéder à Internet, et même à un bon Internet, ce qui est le cas de Cora, apparemment, qui donc a renoncé à Internet, ce que je trouve très dommage, parce qu'elle n'y arrive pas. Bon, je vois que c'est uniquement parce qu'elle n'y arrive pas. Et donc, c'est pas qu'elle n'a pas le goût d'accéder à Internet. Car j'avais écouté votre émission du 17 juillet et j'avais constaté que certains ne voulaient pas accéder à Internet.
Ou ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas encore accès à la culture Internet, mais petit à petit, il fallait bien s'y mettre. Là, on parle vraiment de possibilités techniques.
Oui, oui. Mais ça, c'est, disons que pour nous, ça nous motive. Le pire, ce serait des gens qui ne voudraient pas accéder à Internet. Alors que c'est un combat vraiment que l'on mène intensément.
Vous êtes régulièrement interpellé, je pose la question à Michel Combault, mais ça marche aussi pour vous, Martine Lombard, par les parlementaires, par exemple, de départements, comme celui de Cora. Il y a urgence, il y a un appel, un cri du cœur pratiquement des représentants de ces départements.
Oui, on est interpellé, je dirais d'ailleurs, d'abord par nos clients. Les clients souhaitent avoir cette connectivité, hein, qu'elle soit fixe ou mobile, et souhaitent que cette connectivité s'améliore. Qu'on puisse recevoir son téléphone portable en 4G partout où l'on va, où l'on habite, où l'on travaille. Notamment parce que, comme le Cora disait, Internet est devenu une nécessité pour travailler, pour échanger, pour aussi faire ses démarches administratives. Et oui, les élus nous interpellent. Hein, effectivement, avec les opérateurs, nous allons fréquemment à leur rencontre sur le territoire et on mesure cette impatience numérique. Hein, c'est ce qui nous a fait, effectivement, prendre des engagements nouveaux récemment en janvier pour accélérer le déploiement de la téléphonie mobile. Prendre des engagements nouveaux aussi pour accélérer le déploiement de la fibre et aussi permettre avec d'autres technologies de pouvoir accéder à Internet, puisque Internet est devenu maintenant un bien commun.
Mais entre avoir seulement une petite barre sur son téléphone et avoir la fibre, il y a un monde. Est-ce que Cora va pouvoir passer de tout l'un à tout l'autre ou est-ce que vous prévoyez une gradation dans, on va dire, l'équipement de ce genre de département ?
L'enjeu, effectivement, c'est que tout le monde, d'ici 2022, n'aura pas accès à la fibre. Un certain nombre de foyers pourront accéder pour autant, à leur service avec d'autres types de technologies. Nous sommes engagés, en fait, les opérateurs sont engagés à déployer la 4G vers l'ensemble de la population au plus tard d'ici fin 2022. Donc même avec un téléphone 4G, vous pourrez faire un ensemble de démarches administratives avec le confort associé à cette technologie.
Sébastien Dufromentel, ça a dû vous faire doublement sourire hein, l'appel de Cora, parce que c'est là que vous intervenez, chez les gens qui n'ont pas encore accès à Internet et ceux qui ne veulent pas donner de l'argent, pour reprendre les termes de Cora, aux entreprises et aux mastodontes.
Oui, ça fait partie effectivement de nos attributions. Je pense que en attendant le déploiement de la fibre, il y a des technologies qui peuvent être mises en place. Alors, je ne vais pas, moi, beaucoup vous parler de technologies comme 4G ou 5G, parce que ce sont des technologies de téléphonie mobile, donc qui sont, en l'état actuel des choses, inaccessibles aux petits opérateurs comme nous. Mais, en revanche, dans ce type de région, on peut tout à fait mettre en place ce qu'on appelle des ponts radio. Donc, c'est d'amener de l'Internet en attendant de l'amener par la fibre, de pouvoir l'amener par les airs,
Alors, c'est un défi que je vous lance. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous dire techniquement comment ça se passe?
C'est très simple. On prend deux antennes, on en met une chez l'abonné, une à un endroit où on peut raccorder à Internet facilement, un endroit où on a de la fibre typiquement. On pointe les deux antennes l'une à l'autre parce qu'elles émettent que dans une seule direction, et ça marche. Et ça amène de l'Internet qui est généralement... Alors,
moi, manque de la fibre, évidemment, c'est une technologie de transition, mais qui est généralement nettement meilleure que ce qu'on peut avoir par les câbles dans ce type de région.
Et ça coûte combien, Sébastien? C'est un petit peu plus cher que les abonnements classiques?
Alors non, en fait, justement, le gros avantage de ce type de connexion, c'est que ça coûte moins cher, au contraire, justement. On est sur de l'ordre de 15-20 euros par mois. Tout simplement parce que c'est une technologie qui est dans laquelle l'opérateur qui pose le pont radio, donc l'opérateur associatif, maîtrise le réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les offres qu'on fait par câble actuellement, l'essentiel du prix vient du fait qu'on doit louer le réseau des gros opérateurs. Donc quand on pose notre propre réseau, forcément ça revient moins cher.
Alors je vous propose de quitter le Lot et Cora, de traverser le Causse du Larzac, où il doit bien rester quelques zones blanches, et arriver chez Ludovic, qui nous attend depuis l'Hérault. Bonsoir Ludovic.
Eh bien, bonsoir. Voilà, donc je vais essayer de vous exposer un petit peu mes points de vue. Je vous remercie de me recevoir à votre émission. Voilà, donc nous sommes des infirmiers libéraux sur une commune de l'Hérault, et nous avons un problème de connexion Internet. En termes de qualité, on en a quand même, on a 2 mégas en moyenne, mais c'est quand même très bas parce qu'on a besoin de connexions assez importantes pour être rémunéré pour nos connexions, télétransmission avec les CPM, ainsi de suite, pour pouvoir gagner nos sous. En plus, nous sommes assez éloignés donc de grandes villes, donc en termes de loisirs, cinéma et des choses comme ça, donc on peut pas trop y aller. Et par rapport au temps qu'on consacre au travail et pour pouvoir donc vraiment se régaler en famille, donc on se rabat sur des loisirs essentiellement liés sur Internet, la télévision, la musique, les VOD. Voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème un peu de double peine, c'est-à-dire que je paye moi un abonnement plein pot pour une connexion Internet ADSL qui est très basse, et donc l'alternative qui nous reste est le 4G qui est correct dans notre secteur, mais le problème c'est que on se retrouve donc à devoir réinvestir à nouveau dans un routeur 4G. Bon, je pense que vos invités pourront l'expliquer. C'est un système qui permet de capter le 4G, de pouvoir le répartir dans la maison, ce qui est une alternative intéressante. Mais nous, on a un problème, c'est qu'on a des chutes de débit très importantes et très irrégulières, ce qui nous permet pas du tout, malheureusement, de pouvoir profiter de VOD ou de serveurs comme Canal+.
Donc d'un côté, ça vous coûte assez cher et vous n'avez aucune garantie d'avoir un réseau suffisant, voilà, pour vous adonner à vos loisirs en famille.
Exactement. La DSL, on paie plein pot comme quelqu'un en ville. L'abonnement classique, mais on n'a que 2 mégas, donc c'est pas suffisant. On investit dans du matériel supplémentaire avec une clé WebSurf, en l'occurrence pour mon producteur d'Internet, du 4G. On met une petite carte à puce SIM donc qui dédouble. On est obligé de réinvestir dans un abonnement aussi téléphonique. Ça, c'est important, qui me coûte quasiment 80 euros par mois, pour avoir un très gros débit et avoir assez de bases de données en mégas pour pouvoir télécharger des films ou des jeux, ou voilà. Et à l'arrivée, c'est pas du tout efficace, j'ai des chutes importantes, c'est très irrégulier. Donc là, j'ai entendu qu'il y avait des antennes qui existaient à l'instant, donc je trouve ça intéressant comme sujet.
Là, vous pouvez rentrer en communication, c'est le cas de le dire, avec la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, et Sébastien Dufromentel qui se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. On va peut-être écouter, Ludovic, la réponse de Martine Lombard, par exemple. Bon, il y a de la 4G, mais ça coûte très cher et c'est pas extrêmement fiable. Est-ce que Ludovic, lui aussi, a quelques espoirs à nourrir pour les prochaines années?
Bon, je vois qu'il a de la 4G, ce qui est... Je m'en réjouis parce que c'est quand même un gros progrès, hein, la 4G par rapport à la 3G. Il y a encore effectivement une partie du territoire qui n'a pas la 4G, donc... Dans l'Hérault, on l'a. Ouf, tant mieux. En revanche, sur le fixe, il n'a que 2 mégabits seconde. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Il fait partie des 6 millions de Français qui ont moins de 8 mégabits seconde. Et donc, c'est là que les efforts prioritaires doivent avoir lieu pour améliorer ce débit et arriver à un bon débit qui est de 8 mégabits seconde. Et ça, c'est l'objectif fixé fin 2020. Alors, vous avez dit tout à l'heure, dans 18 mois, Moi, je compte 2 ans et demi.
C'est fin de... D'accord. Vous rajoutez 12 mois. Allez, c'est de bonne guerre. Une question de Pierre qui nous a contacté via la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Michel Combeau, Pierre nous explique que son beau-frère avait accès à la fibre optique à Barcelone dès le milieu des années 90. Comment se fait-il que la France soit aussi en retard?
Alors, je pense pas que la France soit en retard. Hein. La France a pu développer l'Internet hein, au début des années 2000, notamment grâce à la technologie DSL. Énormément, je dirais, d'investissements ont été faits sur cette technologie, alors qu'ils présentent maintenant des limites. Et la France a souhaité se doter d'un cadre assez complet en matière de fibre optique au début des années 2010. Et donc, les investissements ont commencé, effectivement, il y a une dizaine d'années. Donc, certes, effectivement, la fibre optique n'est pas présente sur l'ensemble du territoire. Pour autant, les investissements sont là. Et clairement, en tout cas, y compris les engagements récents des opérateurs auprès du gouvernement, vont permettre d'amener la fibre optique encore plus loin qu'aujourd'hui.
Sébastien Dufromentel, là-dessus, vous avez lancé votre système associatif dans votre belle région lyonnaise et stéphanoise, je crois, au début des années 2010-2011, qui n'était pas forcément bien couvert par les opérateurs classiques. Est-ce que vous voyez, là aussi, dans ces secteurs, le retard se résorber petit à petit?
Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Combeau. Effectivement, la France n'avait pas de retard au moment où on a mis en place la DSL. En revanche, au niveau du déploiement de la fibre, on aurait pu prendre beaucoup plus d'avance que ce qu'on a pris, en fait. Je pense que parmi les raisons qui ont fait que le retard a pris, je pense que les gros opérateurs ont principalement commencer à fibrer en direction de, enfin, pour leurs infrastructures, pour leurs besoins personnels, mais ont assez peu pris en compte ce qu'on appelle le FTTH, donc la fibre jusqu'au domicile de l'abonné, ce qui est malheureusement quelque chose qui arrive relativement tardivement. Donc effectivement, ça se déploie et il y a des progrès qui sont faits, mais il en reste encore beaucoup à faire, je pense.
Martine Lombard, pour conclure là-dessus.
Oui, à Lisbonne, donc au Portugal, effectivement, la fibre optique est franchement très développée. Mais grâce au fait qu'au Portugal, alors je ne sais pas s'il faut dire grâce ou à cause de, on est beaucoup moins exigeant en matière de protection de l'environnement. Donc on admet très bien que la fibre passe en aérien, qu'elle arrive directement en façade, alors qu'en France, on est beaucoup, beaucoup plus exigeant. En revanche, moi je ne dirais pas que la France est en retard en matière de fibre optique. Elle est même plutôt en avance, hein. On est en retard globalement en matière de très haut débit, justement parce qu'on a fait le choix de la fibre optique. Mais des pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, sont en train d'enclencher ce que la France a enclenché il y a quelques années. Donc en matière de fibre optique, globalement en Europe, on est plutôt en avance, alors qu'en matière de très haut débit, pour le moment, on ne l'est pas.
France Inter, Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Et on va rester dans l'Hérault, nous attend Claude. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Alors chez vous, on parle de 2021 pour la fibre optique.
Voilà, dans le département, il y a une publicité du président du conseil départemental, la fibre pour tout le monde. Mais moi j'habite une petite commune, il y a 80 habitants en tout en gros, hein, la moitié au chef-lieu, le reste dans des lieux-dits. Et j'ai lu dans le journal départemental que la fibre serait réservée aux gens ayant un nom de rue et un numéro de rue. Ce n'est pas le cas de la moitié des habitants de ma commune. Voilà. Et puis, je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit l'infirmier. Non, un complément par rapport à ce qu'a dit l'infirmier Ludovic.
Votre voisin, pratiquement.
Voilà. Moi, quand je veux envoyer des photos, alors j'y connais rien. Hein, la technologie, moi, niveau zéro. Quand je veux envoyer des photos, je vais en ville de mon téléphone portable. Parce qu'à ma maison, les photos, elles ne partent pas. Donc voilà.
Merci pour votre témoignage, Claude. Michel Combeau pour la Fédération Française des Télécoms va vous répondre sur cette histoire de, il faut un numéro de rue et une rue pour pouvoir être raccordé.
Oui, effectivement, c'est l'un des nombreux points techniques du chantier national de la fibre optique. Comme Martin Lombard le rappelait tout à l'heure, la France a fait le choix du fibrage quasi intégral de la population. Et notamment, l'adressage est important. Pourquoi ? Pour s'assurer que lorsqu'on fibre une maison, on sache exactement où la fibre arrive. Et si vous appelez après votre fournisseur sans savoir exactement là où vous habitez, c'est là où les erreurs arrivent et où les temps de connexion s'allongent. Donc oui, effectivement, nous recommandons le fait que les communes fassent un plan de numérotation de leurs habitations pour permettre effectivement d'accélérer le fibrage, notamment de ces petites communes. Il faut savoir qu'en France, près de 40% des foyers n'ont pas d'adresse, de numéro, et ce qui est effectivement pour nous un frein
et
à l'accélération.
Ça restera la condition sine qua non à l'installation de fibres.
Ce n'est pas une condition sine qua non, mais c'est pour nous un moyen d'accélérer le fibrage et de s'assurer en tout cas que nous ne ferons pas d'erreur au moment de connecter les maisons au réseau en fibre optique.
Alors on va voir maintenant qu'il n'y a pas que la campagne où subsistent des zones blanches, le témoignage de Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Parfaitement.
Ok, alors ma question c'est en fait quid des transports en commun et de tous ces réseaux ferrés et de l'accès internet sur le réseau ferré, car en fait moi je me suis aperçu, j'ai pris longtemps les transports en commun il y a quelques années, et voilà, la 4G ça passe plus, ça repasse, ça passe plus quand on est dans le train. Et moi je vois la plupart des gens font 1 heure le matin, 1 heure le soir pour rentrer du travail, s'ils prennent les transports en commun, et ben ils aimeraient bien faire leur mail, consulter leur courriel, consulter leur compte en banque, faire toutes ces tâches administratives qu'on est obligé de faire maintenant par internet et pas les faire à la maison, parce que au début à la maison c'est bien, mais je préfère passer du temps avec mes enfants, mon épouse, etc. Donc c'est dommage que sur les transports en commun, il n'y a pas une priorité sur l'accès au Wi-Fi, puisque tous les gens sont assis à ne rien faire d'autre, quoi.
Alors, deux choses dans votre témoignage, Philippe. Il y a d'abord, la zone blanche n'est pas l'apanage de la ruralité. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Martine Lombard?
On peut dire effectivement qu'en matière de transport en commun, il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, pour le métro parisien, tout simplement, à Paris, vous avez pu constater, nous sommes ici à Paris, que il y a des lignes où on ne capte pas, on n'arrive pas à surfer du tout sur Internet. Cela dit, si je peux inviter Philippe à regarder l'application monreseaumobile.fr. C'est une application que je trouve assez formidable, hein, qui existe maintenant depuis octobre 2017. Il pourra regarder quel est l'opérateur qui couvre bien les transports en commun, et notamment les trains dits du quotidien. Par exemple, le Transilien ou d'autres, ou les TER. Et là, il verra bien quel est l'opérateur qui couvre ces lignes qu'il emprunte tous les jours.
Mais comment vous définissez les priorités d'équipement? Là, il faut mettre la 4G. Est-ce que c'est une priorité alors que dans un autre coin de France, il n'y a pas du tout d'Internet? Comment vous réussissez à établir ces priorités, Michel Combeau?
Moi, je dirais l'équipement et la couverture des axes de transport a été un des points assez importants de l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement au début du mois de janvier, notamment pour accélérer le déploiement de la 4G, notamment sur les axes, sur le réseau ferré régional, hein, ces trains du quotidien. Et notre engagement était de découvrir à 90% d'ici fin 2025. C'est un investissement très important, mais que nous avons effectivement accéléré à la demande du gouvernement. De même, les axes de routiers prioritaires, notamment le réseau national et départemental, seront couverts en 4G d'ici fin 2020. Donc pour nous, c'est effectivement un point important, comme Philippe le disait, c'est une demande de nos clients et nous y avons souscrit dans l'accord avec le gouvernement du mois de janvier.
Sébastien Dufromentel, l'Internet très haut débit ou le Wi-Fi partout dans les transports en commun, ça vous semble être une priorité absolue?
Alors, je vais plutôt répondre sur un point légèrement différent, mais en fait, sur la question de comment on définit les priorités, en fait, si on regarde ce qui se passe, c'est relativement simple. C'est que dans la plupart des régions, il faut savoir que le très haut débit se décide en fonction selon les collectivités territoriales. Ce ne sont pas les mêmes règles partout. Mais dans la plupart des régions, la collectivité a laissé l'opérateur commercial décider lui-même du rythme dans lequel il allait installer les fibres, de quelle zone il allait fibrer en priorité. Et il se trouve que les opérateurs commerciaux, assez naturellement, ont tendance à favoriser les endroits où ils font des bénéfices. Et ce qui fait que, on s'est retrouvé dans un déploiement où on commence par déployer dans les zones qui sont déjà déjà bien connectées par du VDSL ou d'autres technologies similaires. Et que les zones rurales, les zones blanches, les zones où il y a moins de monde, donc moins de bénéfices pour les opérateurs commerciaux, sont de fait moins prioritaire. Et je pense que c'est une raison pour laquelle c'est important qu'on ait une régulation de télécom, et c'est notamment le rôle de l'ARCEP de veiller à ce que ce genre de choses ne se fasse pas dans cet ordre-là, puisque
Alors,
ce n'est pas l'ordre prioritaire de notre point de vue, puisque l'important, c'est d'apporter de l'Internet là où actuellement il n'y en a pas.
Martine Lombard, qui fait partie de l'ARCEP, cette autorité de régulation des communications, expliquez-nous comment on définit les priorités de déploiement. Pourquoi mettre ici la fibre alors que là-bas, il n'y a même pas le téléphone? Qui décide et sur quels critères? Est-ce que la rentabilité, pour aller jusqu'au bout du propos de Sébastien Dufromentel, est-ce que la rentabilité entre en ligne de compte?
Bon, là, Sébastien parlait clairement des zones moins denses qu'on appelle d'initiatives privées. C'est-à-dire, ça part opposition aux zones moins denses d'initiatives publiques, qui couvrent quand même 80% du territoire. Donc, dans 80% du territoire, ce sont des zones moins denses d'initiatives publiques. Et là, ce sont les collectivités territoriales qui choisissent où il faut couvrir en priorité. Ils lancent des réseaux d'initiatives publiques. Et même, je dirais qu'ils mettent un point d'honneur à couvrir d'abord les zones qui seraient délaissées. Ces élus territoriaux, je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils jouent un rôle très très important dans la définition des priorités dans les zones rurales. Donc autant ce que disait Sébastien peut valoir pour les zones moins denses d'initiatives privées, autant ça ne vaut pas pour les zones rurales, c'est-à-dire quand même 80% du territoire.
Sébastien Dufromentel pour conclure et puis ensuite on joindra Ahmed qui nous attend.
Je suis désolé, mais je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire Madame Lombard. Je parlais bien des zones d'initiative publique, étant donné que c'est en partie ce à quoi je suis confronté. Effectivement, les élus font tout leur possible pour amener de l'Internet là où il n'y en a pas, et c'est tout à leur honneur. Mais actuellement, dans la plupart des contrats de délégation qui sont faits, les opérateurs privés sont libres de choisir en grande partie l'ordre dans lequel ils font, et c'est un des problèmes du montage des réseaux d'initiative publique actuellement.
On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, non. En tout cas sur le bon sens et l'abnégation des élus locaux, là au moins vous êtes d'accord.
Ah, moi vraiment je voudrais leur rendre hommage, oui.
Le téléphone sonne. Arnaud Bousquet sur France Inter.
Le témoignage d'Ahmed au standard. Bonsoir Ahmed, merci de votre patience.
Bonsoir France Inter, c'était relativement court, pas de souci. Je souhaite apporter le témoignage suivant. Chaque fois que j'allume mon application Radio France pour venir sur faire des choix d'émissions de France Inter ou France Culture, avant d'accéder à mes émissions favorites, on me fait des offres publicitaires pour une multitude d'applications, parfois, pour la majorité, toutes très intéressantes. Mais on est dans un monde, en fait, où on nous pousse à la schizophrénie. On me fait des offres, je suis médiateur culturel par le voyage, le son et l'image, on a une multitude d'offres, mais une partie de la population, une partie des territoires est privée de ces offres. La question que je voudrais poser, c'est une inégalité de traitement. Je m'explique. Je suis dans le tourisme, j'ai un confrère qui est en ville, il prend un abonnement, je prends le même abonnement que lui, il est servi, il peut envoyer des dossiers, il peut en recevoir. Moi, je rame pendant des minutes et des minutes, pour pas dire des heures et des heures, pour pouvoir avoir les mêmes prestations que lui. Je suis dans un département de forte densité touristique. Une richesse absolument extraordinaire.
Vous nous appelez d'où? Le Loir-et-Cher. Les châteaux.
Je suis dans le Loir-et-Cher. J'ai lu dans une revue professionnelle liée au commerce local, il y a pour ambition de développer par deux l'activité touristique. Mais qui va faire l'opérateur de ce tourisme? Chambord, Chaumont, les grosses infrastructures, le château de Blois, la maison de la magie? Mais on oublie aussi les petits opérateurs, qui sont les gîtes et les petits opérateurs comme moi. C'est mille feux qui demandent qu'à brûler et qu'à briller. Donc la question que je pose, c'est d'abord, un, je paye le même prix que mon confrère qui se trouve en ville, lui, il est bien servi. Moi, je galère et je rame. Juste une petite anecdote. Là, votre standardiste m'a appelé sur mon fixe, mais avec mon mobile, la première auditrice que vous avez eue, elle avait une barre. Moi, parfois, j'ai même zéro barre. L'hiver, quand je vais avoir une communication importante, j'attends. Parfois, il m'arrive de rester pendant une demi-heure, trois quarts d'heure dehors pour pouvoir avoir mon appel. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une maison sans eau, sans électricité? La question de fond que je pose, c'est qu'aujourd'hui, Internet est aussi vital que l'eau et l'électricité, comme l'accès aux soins, c'est une nécessité vitale. Mais en même temps, quand je vais investir 100 euros par mois pour avoir du débit, ces 100 euros que je vais investir vont rapporter et vont générer de la plus-value.
Merci Ahmed. J'aimerais qu'on prenne le temps de vous répondre parce que vous posez effectivement une question majeure. Michel Combeau, est-ce qu'il y a maintenant une sorte d'obligation de service public à équiper tout le territoire, je dis bien tout le territoire, d'un réseau suffisamment puissant pour naviguer et en l'occurrence pour travailler?
Alors je dirais oui, Ahmed a raison. C'est vrai que l'aménagement du territoire a fondamentalement changé. On le voit, le développement économique se fonde notamment sur la présence de ces réseaux numériques qui permet à tout à chacun, comme Ahmed le disait, au-delà des grands opérateurs commerciaux, là, on parlait effectivement de tourisme, de pouvoir sur depuis n'importe quel endroit du territoire pouvoir travailler et développer son commerce. C'est le sens en tout cas sur la téléphonie mobile, qui est un vrai vecteur en tout cas de développement économique, des engagements que l'on a pris, y compris par exemple pour aller couvrir des zones d'intérêt économique ou touristique. Lorsque vous voulez créer effectivement une zone touristique, même petite, de pouvoir à la demande des élus aller couvrir ces territoires et aider les territoires à se développer, plus uniquement les gros sites touristiques comme Ahmed les citait, mais permettre aussi à ces petits acteurs de se développer, parce que maintenant la clientèle, lorsqu'elle voyage, lorsqu'elle est en vacances, elle souhaite être couverte, et c'est pour nous une découverte à laquelle nous souhaitons répondre.
Sébastien Dufromentel, vous êtes d'accord avec Ahmed quand il dit que l'internet aujourd'hui est le bon débit, c'est aussi important que l'eau ou l'électricité dans une maison?
Aussi important, je ne sais pas, mais en tout cas c'est nécessaire pour énormément de monde. Et il faut savoir que le bon débit est de plus en plus nécessaire. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Nielsen qui montre comment l'usage des débits évolue et qui montre que l'augmentation des débits on a toujours besoin de plus en plus de débits. Et c'est effectivement nécessaire d'aller amener de l'internet là où il n'y en a pas encore, parce que c'est là qu'il y en a le plus besoin. Et sur le point que soulevait notre auditeur sur le fait que les deux personnes peuvent avoir la même offre et pas du tout avoir les mêmes caractéristiques, je pense que c'est aussi un des points qui nous motive, nous, pour faire des fournisseurs d'accès associatifs. C'est simplement que nous n'avons pas de clients, nous avons des abonnés, nous avons des membres de l'association, et donc on a une relation humaine qui fait qu'on va de notre mieux à chaque fois, et je pense que c'est...
Il y a un côté militant, dans votre démarche.
Oui.
Roosevelt avait lancé son New Deal pour sortir les États-Unis de la Grande Dépression au début des années 30, et là il y a Jacques Mézard, notre ministre de la cohésion des territoires, qui imagine avec ses secrétaires d'État carrément un New Deal numérique. Alors volontarisme et interventionnisme, ça c'était pour Roosevelt, là ça va donner quoi, Martine Lombard?
Là, ce sont des engagements vraiment très importants et avec un effort aussi sensible de l'État. Régulièrement, l'État, quand il attribuait des fréquences, mettait aux enchères financières ces fréquences. Et donc, ça rapportait environ 3 milliards d'euros à chaque fois. Là, l'État a décidé de renoncer à ces rentrées d'argent public. C'est quand même des sommes assez considérables. Mais en contrepartie, d'obtenir des engagements de la part des opérateurs, d'investir ces sommes et même plus que ces sommes dans l'amélioration, alors très volontariste, très forte, très sensible du réseau mobile. Avec des engagements généraux, transformer tous les sites 3G en sites 4G, couvrir 55 000 km de réseau routier d'ici fin 2020, créer 5 000 sites chacun avec une mutualisation. Donc là, vraiment, remédier fondamentalement, en tout cas pour le téléphone mobile, à ces disparités qu'on évoque.
C'est entendu, c'est accepté, Michel Combeau, par les opérateurs?
C'est même nous qui l'avons proposé il y a plus d'un an, au moment des campagnes électorales. Nous avions proposé une sorte de contrat de mandature pour une fois nous mettre autour de la table et définir quels étaient les objectifs à atteindre, notamment celui de l'aménagement du territoire. Et c'est effectivement, nous sommes contents d'avoir été entendus. Nous avons donc signé, effectivement pris ces engagements auprès du gouvernement et de l'ARCEP pour mettre enfin l'investissement au cœur des politiques publiques et permettre, comme Ahmed dans le Loir-et-Cher, à l'ensemble des territoires de pouvoir disposer de la 4G d'ici fin 2022 pour l'ensemble de la population.
Allez, on part dans les Deux-Sèvres où nous attend Vincent. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir. Moi j'ai une question à vous poser. On nous parle de montée en débit, d'augmentation d'Internet, de la chose vitale d'Internet. Le seul problème, c'est que lorsqu'on monte en débit sur des sous-répartiteurs, ce qui a été notre cas sur ma commune, du sous-répartiteur jusque chez particulier, on se retrouve avec un réseau filaire, donc l'ancien réseau téléphonique, qui date d'il y a 40 ans. Donc il y a 40 ans, on n'avait que le téléphone. Donc là, il n'y avait pas de problème, on pouvait avoir un réseau qui était plus ou moins moyen. Mais là, ici, maintenant, on a de l'image, du son, et on se retrouve avec quelque chose qui est obsolète pour nous apporter l'information et l'Internet jusqu'au particulier. Alors, tant qu'on est en grande ville ou en périphérie grande ville, on a encore des offres de fibre optique, des choses comme ça, mais en campagne, on se retrouve avec un réseau qui a plus de 40 ans et qui est obsolète. Et lorsqu'on se promène dans nos campagnes et qu'on voit des boîtiers de raccordement téléphonique ouverts au grand vent et sous la pluie, comment voulez-vous que Internet qui part du sous-répartiteur à 50 mégas puisse arriver chez le particulier à 10 mégas ou 8 mégas, comme c'est le minimum ce qu'il nous a proposé tout à l'heure. On arrivera à du 2-3 mégas maximum.
Est-ce qu'il y a une solution ? Martine Lombard, le réseau est là, mais les équipements ne suivent pas forcément.
Disons, ce que disent Ahmed et ce que disent Vincent justifie vraiment le choix du réseau en fibre optique. Parce que la schizophrénie existe, comme le disait Ahmed et comme maintenant le dit Vincent, en zone rurale. Vous avez le vieux réseau cuivre, le réseau ADSL, et qui est un réseau qui a pour caractéristique que le débit diminue avec la distance. Donc plus l'habitat est dispersé, moins le débit est bon. Alors qu'avec la fibre optique, le débit reste le même quelle que soit la distance. Donc la fibre optique est particulièrement adaptée aux zones rurales. Mais encore faut-il trouver les milliards d'euros, les dégager, les investir. C'est ce que entend faire l'ARCEP, inciter à investir dans ce réseau de fibre optique, ce qui est quand même... Franchement, un effort énorme à faire pour les opérateurs.
Sébastien Dufromentel, quand vous entendez Martine Lombard inciter à investir dans la fibre, j'imagine que là non plus, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Alors, il faut déployer la fibre, tout à fait. L'important, c'est de la déployer, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au domicile des abonnés. Les opérateurs peuvent avoir les moyens de le faire actuellement, je pense que c'est dans les chantiers. Je pense qu'un point qui est important à noter là-dessus, c'est qu'il est nécessaire également de faire en sorte que les opérateurs qui posent la fibre ne la gardent pas pour leur seul bénéfice, parce que dans ce cas-là, ça verrouille totalement le marché. Ça fait qu'il n'y a que les gros opérateurs qui ont les moyens de poser la fibre qui vont pouvoir envisager d'opérer. Et donc ça, c'est un problème pour nous autres, petits FAI.
Car vous souhaitez et vous pourriez techniquement accéder à la fibre, si je comprends bien vous.
Nous pouvons accéder à la fibre si les opérateurs qui posent les fibres nous font ce qu'on appelle des offres activées, c'est-à-dire des offres sur lesquelles nous avons la possibilité d'opérer sans devoir investir énormément de matériel, ce qui dépasse très largement nos budgets. Et il y en a dans certains territoires, on peut trouver de l'offre activée, pas toujours raisonnable, mais on peut en trouver. Mais malheureusement, ce n'est pas encore assez répandu du tout pour l'instant.
19h55, je voudrais qu'on termine l'émission avec Sylvie qui nous appelle des Hautes-Alpes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Vous aviez une question, non pas technique, mais environnementale et presque philosophique.
Si on peut dire. Merci beaucoup de prendre mon appel. Voilà, la question que je voulais poser, c'était de savoir si réellement il fallait supprimer ces zones blanches. Ces zones blanches sont actuellement encore des zones de refuge pour des personnes électro-hypersensibles. L'électro-hypersensibilité, elle est provoquée par les ondes électromagnétiques, par la Wi-Fi en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie du collectif Stop Linky 05, parce que le dispositif Linky génère des ondes électromagnétiques. Voilà, c'était ma question.
On est bien déconnecté des fois, de temps en temps, Martine Lombard.
Eh oui, nous avons en fait affaire à des volontés parfois contradictoires. C'est-à-dire, on veut avoir accès à Internet partout et on ne veut pas d'antenne. Donc certains, effectivement, refusent l'accès à Internet, je dirais par principe, ou bien simplement parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour leur santé, qu'ils sont électrosensibles. Je constate que les plus jeunes, en tout cas, souhaitent vraiment avoir cet accès à Internet. C'est un enjeu très très fort si on veut retenir les plus jeunes qui veulent vraiment avoir accès à Internet. Et donc, c'est un enjeu même en termes de lutte contre la désertification rurale, sinon les jeunes vont quitter ces territoires.
Un mot pour conclure sur la situation de l'outre-mer, parce que la fracture numérique, elle est transposable. Par exemple, en Guyane, où je lisais que moins de 7% du territoire était couvert. Alors, est-ce que le New Deal numérique passera par là, Martine Lombard?
Oui, on vient de rendre public des zones, les cartes de couverture de l'outre-mer. On a fait 350 000 mesures pour vérifier la qualité de la couverture outre-mer. Alors, en Guyane, c'est tout à fait atypique, effectivement. On a une bonne couverture uniquement le long des zones littorales. Le reste de la Guyane est sans couverture 4G. Bon, mais il y a une densité humaine qui est très, très faible en Guyane, dans ces zones-là. Donc, oui, il faut avancer. Je constate que les collectivités d'outre-mer ont vraiment investi dans la 4G. Les opérateurs ont fait des efforts énormes pour investir dans la 4G outre-mer. Reste le problème de la Guyane, effectivement.
Sébastien Dufromentel, pour conclure, est-ce que votre fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif s'intéresse et couvre, si je puis dire, également les territoires et les départements d'outre-mer?
Alors, le principe, c'est qu'on fait des associations là où il y a des gens pour les faire, forcément. On ne les fabrique pas à distance comme ça. Et donc, nous avons notamment Iguane.net qui opère à Saint-Barthélemy. Mais il y a la possibilité de monter d'autres FAI ailleurs dans les autres départements et régions d'outre-mer, et nous sommes parfaitement prêts à aider si des gens sur place veulent prendre les choses en main.
Michel Combeau, en 30 secondes, les initiatives de Sébastien Dufromentel et de ses amis, vous voyez ça comment? Vous dites heureusement qu'ils sont là, pour là où nous, les gros opérateurs, on peut pas être là, ou vous trouvez que c'est trop marginal pour vous émouvoir?
Non, je pense qu'effectivement, c'est aux clients de décider ce qu'ils souhaitent avoir comme service. Hein. Le marché français est un marché ultra concurrentiel avec des prix, effectivement, je dirais, les plus bas en Europe. Notre volonté est aussi de pouvoir augmenter cette qualité de service qui est attendue. Mais en tout cas, voilà, l'ensemble d'initiatives qui permettent aux clients d'avoir accès à ces services-là sont les bienvenus.
Merci beaucoup pour vos éclairages et puis pour ces perspectives pour venir à bout de la fracture numérique en France. Martine Lombard, membre de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications, Michel Combeau de la Fédération française des télécoms, et puis Sébastien Dufromentel depuis Brest pour la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associative. Alors même si on a un bon réseau ici en studio, on va raccrocher notre téléphone sonne jusqu'à demain et nous le rouvrirons pour évoquer avec vos questions l'avenir de notre planète, de notre environnement. Les ressources naturelles sont épuisées, le dérèglement climatique est en route. On se retrouve demain, s'il vous plaît, à partir de 19h15. Merci à Caroline Baudry, Justine Bilré, Pierre Gauffre qui étaient avec moi pour préparer l'émission. À la réalisation, il y avait ce soir Clément Nouguier, Pierre Faucillon et Clément Berman à la technique. Et juste après les infos, vous retrouvez Fabrice Drouel et ses meilleures affaires sensibles. Ce soir, les coulisses du film Maudit, les portes du paradis. Belle soirée sur France Inter, il est 20h.